VOA Afrique, les infos. À Washington, Bagassi Koura.
Bonjour à tous. La mission des Nations Unies pour la stabilisation de la RDC condamne l'attaque de son convoi à Beni, au nord Kivu. Selon le commandant en second de la force de la MONUSCO, le bilan actuel fait état de 4 morts, dont 2 casques bleus tanzaniens et 13 blessés par balle. Le général Jean Mbayo précise aussi qu'une délégation de la MONUSCO, en collaboration avec la FRDC, est descendue sur les lieux pour faire la lumière sur cette attaque. On l'écoute.
Hier, à 18h15, un convoi du contingent du bataillon tanzanien de la brigade d'intervention a été pris dans une embuscade à hauteur du village de Kisiki, qui se trouve à 10 km environ au sud de Eringeti. Le bilan de cette action à cette heure est de 2 soldats tanzaniens tués, 13 blessés par balle, dont 9 ont déjà été évacués à notre hôpital militaire de Goma, les autres étant prévus pour être transférés dans l'après-midi. Nous regrettons aussi la mort au cours de cet incident de 2 civils. Dès le déclenchement de cet incident hier soir, nous avons coordonné nos actions avec le commandant du secteur opérationnel Sokola 1, mais aussi avec le commandant de la zone de défense numéro 3, avec lesquels nous sommes restés en contact jusqu'à maintenant. Les FRDC et la MONUSCO ont dépêché immédiatement des renforts pour mettre fin à cette attaque, procéder à la sécurisation du périmètre et aussi bien sûr à l'évacuation de nos blessés.
Voilà le général Jean Mbayo, dont les propos ont été recueillis par nos confrères de Top Congo FM. Par ailleurs, selon le porte-parole des Nations Unies à New York, Farhan Haq, 4 casques bleus sont portés disparus suite à l'attaque d'hier. Le gouvernement burundais a ouvert des discussions informelles avec les opposants à un troisième mandat du président Pierre Nkurunziza. Bujumbura a été aujourd'hui le théâtre de nouveaux affrontements. Idriss Fall.
Le pouvoir a accepté de discuter avec des éléments de la société civile et de l'opposition. Mais un participant à ces discussions s'est montré sceptique, disant que le gouvernement refuse de discuter du troisième mandat, ce qui, selon lui, est non négociable. La Cour constitutionnelle a donné raison au chef de l'État. Cette décision est rejetée par les opposants qui estiment que cette Cour est inféodée au pouvoir. Dans les quartiers de Bujumbura, à Kanyosha, la tension était vive entre manifestants et les Imbonerakure, une milice proche du pouvoir. À Kinindo, des policiers ont ouvert le feu pour disperser les manifestants. Des heurts ont aussi eu lieu à Chibitoke. Alexis Manirakiza, porte-parole de la Croix-Rouge, a fait état de 16 blessés. Depuis le début des manifs, les violences ont fait 14 morts. Et pour tenter d'éteindre le feu, les ministres rwandais, kenyans, ougandais et tanzaniens des affaires étrangères sont à Bujumbura pour tenter de rencontrer tous les acteurs et essayer de proposer des voies de sortie de crise.
Idriss Fall. Au Niger, l'évacuation des habitants des îles du lac Tchad continue. Au moins 25 000 personnes ont déjà quitté leur foyer par crainte de nouvelles attaques de Boko Haram. Arrivés dans les villes de Nguimé et Bosso, ils vivent dans des conditions dramatiques, estime le Bureau des affaires humanitaires des Nations Unies, cité par l'AFP. Le président mauritanien a affirmé hier à Nouakchott que l'esclavage n'existe plus dans son pays, mais qu'il reste des séquelles. Il accuse les ONG d'en faire un fonds de commerce. Claire Morin-Jibour.
Pour Mohamed Ould Abdelaziz, l'esclavage n'existe plus en Mauritanie. Selon lui, il en subsiste des séquelles et il dit tout faire pour les traiter en allant vers les anciens esclaves et leurs descendants pour leur offrir de l'eau, des écoles et des routes. Son gouvernement a adopté en avril un projet de loi renforçant la répression de l'esclavage par des peines plus sévères. Le président mauritanien a accusé les ONG de saboter ses efforts en faisant de l'esclavage un fonds de commerce. 3 militants anti-esclavagistes, dont Biram Oulda Oulda Beyd, ont été condamnés le 15 janvier à 2 ans de prison pour appartenance à une organisation non autorisée. Leurs avocats ont fait appel. Des milliers de Haratines, les descendants d'esclaves, ont manifesté le 30 avril à Nouakchott pour réclamer justice et la fin des discriminations. L'esclavage a été officiellement aboli en Mauritanie en 1981 et depuis 2007, les personnes reconnues coupables d'une telle pratique peuvent écoper jusqu'à 10 ans de prison.
Voilà, peut-être une décrispation en vue en Guinée. Le chef de file de l'opposition guinéenne, l'ancien premier ministre Sélou Daleyne Diallo, a rendez-vous ce vendredi avec le chef de l'État Alpha Condé, qu'il a invité au palais présidentiel. C'est ce que Diallo a indiqué à l'AFP. Cette annonce intervient alors que l'opposition a organisé depuis début avril plusieurs manifestations à Conakry et dans le pays pour obtenir une révision du calendrier électoral. Ces manifestations ont donné lieu à des heurts entre forces de l'ordre et manifestants, faisant plusieurs morts.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
L'Ouganda a demandé l'extradition du chef de la rébellion ougandaise des ADF, des forces démocratiques alliées, accusé d'avoir assassiné plus de 300 personnes depuis octobre dans l'est de la République démocratique du Congo. C'est ce qu'a annoncé ce mercredi la police ougandaise citée par l'AFP. Un quotidien ougandais avait annoncé le 30 avril l'arrestation en Tanzanie de Jamil Mukulu, mais Kampala attendait d'avoir la confirmation de son identité de la part d'Interpol. Au Soudan, les forces anti-aériennes ont ouvert le feu contre une cible aérienne près de Khartoum. C'est ce qu'a déclaré mercredi un porte-parole militaire alors que des témoins ont fait état d'explosion dans le même secteur. Le colonel Al-Sawarmi Khaled Saad n'a pas donné de détails sur le type d'appareil et ni où se trouvait exactement lorsque les tirs l'ont visé. Une enquête a été ouverte sur l'incident, a-t-il précisé. D'après la Croix-Rouge, près de 75 personnes ont été tuées en 4 jours de violences intercommunautaires liées à des vols de bétail dans le nord du Kenya. Durant les 4 derniers jours, près de 75 personnes sont mortes, a déclaré à l'AFP le chef de la Croix-Rouge kenyane, Abbas Goulet, à propos des violences survenues dans les districts de Turkana et d'East Poko avant de s'étendre à des zones voisines.
VOA Afrique, une fenêtre sur le monde.
Voilà, une pause humanitaire pour le Yémen. C'est ce que compte demander le secrétaire d'État américain John Kerry lors de son passage en Arabie Saoudite. Pam Dawkins de VOA, qui voyage avec John Kerry, affirme que le secrétaire d'État a également annoncé 68 millions de dollars d'aide supplémentaire au Yémen lors d'une escale mercredi à Djibouti. Le département d'État dit que ces fonds serviront à appuyer les organismes offrant de la nourriture, de l'eau, des abris et autres assistantes aux 16 millions de Yéménites dans le besoin. Le président syrien Bachar al-Assad a reconnu aujourd'hui pour la première fois que son armée avait subi des revers, mais assuré que la guerre contre les rebelles n'était pas perdue. Aujourd'hui, nous sommes engagés dans une guerre, et une guerre, ce n'est pas une bataille, mais une série de batailles, a-t-il déclaré à Damas à l'occasion de la journée des martyrs dans un discours prononcé dans une école pour les enfants de soldats morts au combat. L'armée a perdu en un peu plus d'un mois Idleb et Jisr al-Shughour, deux villes importantes dans le nord et dans le sud, le dernier poste frontière qu'elle contrôlait avec la Jordanie. En outre, ses tentatives pour avancer dans la région de Damas se sont soldées par un échec face à une rébellion unifiée. Lutte contre le terrorisme, les États-Unis prêts à payer cher des informations sur 4 responsables de l'État islamique. Washington offre 20 millions de dollars pour tout renseignement menant à leur capture. Il s'agit notamment d'Abu Mohamed al-Abnani, le porte-parole officiel du groupe terroriste, et d'Abn al-Rahman Mustafa al-Kadouli, ex-leader adjoint de l'État islamique, également recherché Tarkan Tomou Razowich Bati Razvili, ancien directeur d'une prison où auraient été détenus des otages occidentaux, et Tariq Ben Al-Tahar Bin Al-Fahli Al-Ani Al-Warzi, dont le rôle serait de lever des fonds pour l'État islamique. L'argent est offert dans le cadre du programme Reward for Justice, récompense pour la justice du département d'État américain. Et puis, actualité américaine, visite de l'Attorney General, ministre de la Justice Loretta Lynch, hier à Baltimore, dans l'État du Maryland. La ministre voulait encourager la police à mieux faire son travail pour améliorer ses relations avec la population. Et pour terminer, un mot de football européen avec les demi-finales allées de la Ligue des Champions ce soir. Le choc à Barcelone entre le Barça et le Bayern Munich. Hier soir, la Juventus de Turin a battu le Real Madrid 2-1. Les buts turinois ont été inscrits par Morata à la 8e minute et Tevez à la 58e sur penalty. et le but madrilène par Ronaldo à la 27e minute. C'est tout donc pour ce bulletin d'information. Les informations continuent sur notre site internet voafrique.com.
Soyez au cœur de l'info sur VOA.